RMC.
Bounce card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis à télécharger sur rmc.fr. La Dream Team des playoffs est avec nous. Frédéric Weiss, Stephen Brun et Geoffrey Charpille. Bonjour messieurs.
Salut mon petit Pierrot. On est les trois derniers Français encore en lice en playoff.
Ouais, les quatre quand même, tu me comptes dedans, non?
Oui, bah, tu parlais de la Dream Team, donc je dis les trois. Toi, t'es le coach, quoi.
Vous savez que ce générique de Basket Time là, qui nous est entré dans la tête, j'ai vu l'action en live par pur hasard l'autre jour. Sur Bein, après le match 7 entre les Celtics et Philadelphie, je me suis fait un top 60 des plus belles actions de Jordan.
Ah, oui.
C'est affolant, c'est hallucinant, c'est dingue le nombre de grandes.
Et je crois que tu aurais pu faire un top 150 même.
Oui, c'est pas moi qui ai choisi là pour le coup. Hein. Mais c'était, je vous le conseille, hein, si vous aimez le basket, c'est le cas puisque vous aimez Basket Time. C'est quand même affolant ce mec, il faut se le remettre en tête à quel point c'est un des plus grands champions d'histoire.
Une petite piqûre de rappel de temps en temps, tu vois. The Last Dance, ça a mis une petite piqûre de rappel à ton fils notamment.
Voilà,
tu vois,
voilà.
La culture, c'est important.
C'est important, la transmission.
Exactement.
Le spécial final NBA, bien sûr, ça va être très simple comme programme. Nous allons à l'ouest, qui va remporter l'affrontement Davis-Jokic, et nous irons à l'est, Jimmy Butler est-il trop seul face aux Celtics? Vous me direz quelle est la plus belle finale de conférence de l'histoire. Et enfin, le quiz, le thème du quiz, eh bien ce sera 4 franchises. Le thème du quiz, les 4 franchises demi-finalistes, Denver, les Lakers, Boston et Miami. On est prêts?
On est
parti pour ce Basket Time spécial finale NBA. On démarre avec Denver Lakers.
As LeBron's second paint basket. Jokic finds Murray, corner three. It's good. The floater and steady passes it to Davis for the slam. Here's Jokic, nice pass. Caldwell Pope again. Davis, beautiful move, left hand off the glass. What a pass by Jokic. And in one motion, the high-flying Gordon stuffs it. Davis gets inside, flips it up and in. James, a three, knocks it down.
Alors, cette finale à l'Ouest, elle est très intéressante sur le papier parce qu'on a deux équipes alors qu'on a vécu une saison à l'opposé. On a Denver qui est gonflé de confiance par une saison de domination. Ils n'ont pas eu de haut et de bas. Denver, ça a été très régulier et au très très haut niveau. En revanche, les Lakers, c'est les miraculés de la trade deadline. Ils ont commencé par une saison catastrophe et ils finissent en boulet de canon pour être une des meilleures équipes de fin de saison. Alors ça, déjà, c'est les caractéristiques d'équipe, mais il y a aussi un affrontement d'intérieur. Fred, tu vas te régaler à voir ce duel entre Anthony Davis et Nikola Jokic, deux joueurs aux caractéristiques totalement différentes. Hein.
Ah bah, l'opposé, j'ai envie de dire. Complètement l'opposé.
On peut difficilement faire plus différent sur un poste identique.
Oui, exactement. Il y en a un qui est très au sol, qui est très technique, qui a une vision du jeu incroyable, et l'autre qui peut être très aérien, très protecteur de cercle, et qui peut défensivement faire la différence.
C'est-à-dire que pour être plus aérien pour Jokic, il faudrait commencer par arrêter les Nuggets, mais les Nuggets au McDo. Alors, j'y reviens, mais je suis à chaque fois halluciné par le physique.
Arrête
de ce
pas
mec.
De parler de ça.
Ouais, mais je trouve ça dingue. Bah, c'est tellement anachronique dans le sport de haut niveau actuel, quand même, non?
Oui, maintenant il y en a de plus en plus, hein, Luka Doncic.
Il y en a un peu plus.
Un peu dans le même truc. Hein,
alors, Anthony Davis, c'est. Alors, parce que tu nous as dit quand même un mot sur Jokic. Anthony Davis, bon, même si on le connaît, fais-nous un peu le portrait robot.
Lui, il est juste monstrueux. Offensivement, quand il est vraiment en forme et quand il a envie de s'y atteler, il est très très fort vers le panier. Il est capable de shooter extérieur. Mais moi, je trouve que là où il marque le plus la différence dans la ligue, c'est défensivement.
Alors, quel est le plus efficace? Enfin, le plus efficace. Pas le plus efficace, mais le plus utile des deux dans une finale de conf dans des playoffs de la NBA?
Oula, c'est dur comme question.
Comment vous voyez l'affrontement?
Écoute,
je suis pas sûr qu'il y ait affrontement déjà.
Moi, je suis
pas sûr que tout le temps ils se défendent l'un de l'autre. Mais je suis pas certain.
La vraie carence des Lakers dans le roster qui s'est quand même bien rééquilibré après la trade deadline, c'est que derrière Anthony Davis, c'est le néant.
Il devait y avoir Mobamba, mais il joue jamais.
Mobamba est censé revenir de sa blessure à la cheville, même si j'ai du mal à revoir dans la rotation si tu peux l'envoyer pour faire 3, 4, 5, 6 fautes sur Jokic. Après, c'est que des mecs undersize en fait. LeBron, à un moment donné, a joué 5. Vanderbilt est capable de un peu de défendre, mais ça, c'est du bricolage. Et c'est pour la première fois, les Lakers vont affronter un big man dangereux, puisqu'ils ont battu les Grizzlies. Il n'y avait pas Steven Adams et il n'y avait personne, c'était Xavier Tillman. Bon, ça fait pas peur à grand monde.
Peur.
Et ils ont battu les Warriors, où Kevin Looney et Draymond Green sont en attaque. Zéro
non, mais
danger,
Looney,
en fait.
Looney a pesé quand même dans cette série.
Oui, mais pas offensivement. Donc Anthony Davis, sur les deux premières séries, s'est contenté de pouvoir se concentrer défensivement en attendant les mecs dans la raquette, en dissuadant les drives.
Dans l'aide où il était magnifique.
Là, il ne pourra plus faire ça. il ne pourra plus faire ça parce qu'il va falloir à un moment donné, sur des finales de conférence, moi j'ai envie de voir les meilleurs face à face. Et j'ai envie de voir Anthony Davis face à Nikola Jokic. Maintenant, Darvin Ham, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer? Puisque si tu mets Anthony Davis en bune à bune sur Nikola Jokic, tu exposes ton meilleur joueur à éventuellement des problèmes de faute, à éventuellement des problèmes de fatigue, c'est-à-dire être moins performant de le côté du terrain en attaque parce que tu t'épuises à contenir Nikola Jokic. Est-ce que tu viens doubler sur Nikola Jokic? Et là, tu t'exposes à la qualité de passe de Nikola Jokic pour les shooters à l'opposé. Donc, Darvin Ham a un bon boulot au niveau du scouting report et Anthony Davis va avoir un job à temps plein puisque, bon, de temps en temps, il était un peu peinard hein, quand tu joues Memphis et quand tu joues les Warriors. Là, c'est la vraie problématique des Lakers, c'est d'Anthony Davis sur cette série.
Ouais, mais je pense que c'est valable des deux côtés. Hein. Parce que qui va défendre sur Anthony Davis aussi? Est-ce que tu mets Jokic? Est-ce que tu vas l'épuiser aussi? Et c'est compliqué parce que physiquement, il va se faire dominer. Physiquement, c'est logique. Ou est-ce que tu mets un Aaron Gordon et dans ce cas, tu viens en aide? Enfin, c'est pas simple non plus. Hein.
Jojo?
Après, je pense que doubler ou trapper sur Nikola Jokic, la solution, elle n'est pas là parce qu'il a une telle qualité de passe. Il tourne pratiquement à 10 passes de moyenne en play-off. Il va toujours réussir à trouver son pote à côté, le coéquipier démarqué. Et en fait, moi, j'étais en train de me faire la réflexion. Est-ce que l'une des clés de cette série, c'est pas de faire défendre LeBron sur Nikola Jokic? Comme ça, tu gardes Anthony Davis près du cercle. Alors après, attention. Oui, non, mais bien évidemment. Oui, mais LeBron, je me faisais cette réflexion hier et je me dis, est-ce que ça va pas être simplement, je mets des immenses guillemets là-dessus, un facteur X dans cette série? Parce que si Anthony Davis, il reste dans la raquette et que LeBron James, il va chercher Jokic, Davis, il est beaucoup plus efficace proche du cercle pour dissuader. Alors que là,
il y a une inquiétude sur ça, Geoffrey, je suis d'accord avec toi. Sur l'idée, c'est bien. Sauf que. De l'autre côté, il a 38 ans, LeBron. On voit qu'il est quand même moins performant. Si tu veux qu'il ait un peu de faculté de création qu'il avait, tu peux pas l'épuiser à travailler sur Jokic tout le temps. Il est moins puissant, il est moins jeune. Tout est plus compliqué pour lui. Donc,
non, mais après, aller défendre sur Nikola Jokic, ça veut pas forcément essayer de le limiter. Parce que l'une des solutions également, c'est peut-être potentiellement laisser mettre Jokic 60 points à chaque match et essayer de limiter les autres. Ça aussi, c'est une possibilité.
T'as raison. Il faut que les Lakers fassent une option sur Jokic. Mets 35 points. Mais par contre, ne fais pas briller les autres. Parce que s'il met 35 et qu'il fait 12 passes décisives, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, tu peux accepter de te faire fournir par Nikola Jokic, mais tu ne peux pas accepter que Jokic donne 12, 13, 14, 15 passes décisives parce que sinon, l'issue du match paraît compliquée. Après, LeBron, il a su quand même, sur les matchs importants, montrer qu'il était capable encore de mettre quelques points, notamment sur le match.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il doit être fatigué en défense, ça va être peut-être plus compliqué pour lui de marquer les points. Évidemment qu'il est capable.
Et LeBron, dans cette équipe des Lakers, je ne veux pas dire se cache parce que ce serait péjoratif, mais est beaucoup moins initiateur des attaques balle en main qu'il n'a pu l'être par le passé. Aujourd'hui, chez les Lakers, à la création, c'est surtout D'Angelo Russell, c'est surtout Austin Reeves, c'est surtout Dennis Schroeder, parce que LeBron n'a peut-être plus aussi cette capacité de faire la différence sur pick and roll, n'a peut-être plus cette capacité à faire la différence sur le drive et sur la percussion, et il est délesté un petit peu du ballon. Est-ce que LeBron va vouloir récupérer tout ça un petit peu sur une finale de conférence? Ça aussi, c'est une interrogation à voir. Après, LeBron, 38 ans ou pas 38 ans, on a vu que cette saison, quand il faut se faire péter des gros matchs, il fait péter des gros matchs.
Et alors, est-ce qu'on peut faire un point sur le niveau d'Anthony Davis actuel? Parce que tu l'as critiqué à juste titre cette saison, Stephen, mais quand il n'est pas blessé, et c'est le cas actuellement au meilleur moment pour les Lakers, quel est le niveau d'Anthony Davis? Est-ce que c'est un gars qui te fait gagner un titre NBA? Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce qu'on parle du top 3 des meilleurs joueurs de la Ligue, là, actuellement?
Tu me poses la question, on en a parlé tout à l'heure. Oui, pour moi, c'est un top 3 quand il est performant comme ça. C'est, en fait, il a cet avantage.
Est-ce que tu préfères aujourd'hui avoir Embiid ou Anthony Davis si on ne parle pas de blessure dans ton équipe là aujourd'hui?
C'est une bonne question.
Pour
moi, il y a match. Quand il est à 100%.
Non,
évidemment.
Il l'est donc.
Pourquoi? Parce qu'il a cette faculté à marquer des points, évidemment, à être impressionnant en termes de rebond. Mais surtout, moi, je te l'ai dit tout à l'heure. Moi, il marque la différence pour moi défensivement. Quand il est en aide, quand il va gêner tous les shoots, quand il a cette présence à l'intérieur.
Je veux dire qu'il a un physique incroyable aussi.
Il a un physique incroyable, bien sûr.
Après, Anthony Davis, il faut qu'il soit un peu plus régulier. Il est capable de faire 2-3 matchs monstrueux et de passer au travers une ou deux rencontres, qui est très préjudiciable pour les Lakers, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si Anthony Davis passe au travers d'une rencontre, les Lakers ne gagnent pas, ou gagnent beaucoup
logiquement.
Exactement. Et il y a ce problème de régularité qui se pose. Il y a ce problème de régularité qui se pose pour Anthony Davis. Hein. On l'a vu sur les deux premières séries, il monte très très haut, et puis de temps en temps, il a un coup, il n'est pas là. Il disparaît de la circulation, et c'est problématique pour les Lakers. Mais Anthony Davis, aujourd'hui, et on l'a vu en 2020, dans la bulle, puisque c'est exactement la même finale de conférence qu'en 2020. Alors il reste deux rescapés du côté des Lakers, c'est Davis et LeBron, et il en reste deux du côté des Nuggets, c'est Jamal Murray et Nicolas.
Nikola Jokic.
Mais Nikola Jokic n'est pas le même Nikola Jokic parce qu'il s'était fait. Anthony Davis avait massacré Nikola Jokic en 2020 dans la bulle. Je crois qu'Anthony Davis était à plus de 30 points.
Il avait beaucoup souffert, mais ça a changé.
Oui, ça a changé. Très bonne moyenne.
Le rapport de force.
Écoute, Anthony Davis, pour moi, reste le facteur X et la pièce qui fait basculer les Lakers sur le titre de champion ou pas. LeBron James, oui, est très important.
Les secondes couteaux des Lakers, on en parle ou pas? On en parle
parce que je pense qu'il y a un avantage, moi, je pense, sur le banc des Lakers, sur des joueurs capables de faire gagner des matchs. On l'a vu sur les deux premières séries, un Hachimura a fait gagner des matchs, un Austin Reeves a fait gagner des matchs, un Lonnie Walker a fait gagner un match, notamment avec 15 points dans le quatrième
quart. Peut-être pas le refaire 10 fois, Lonnie Walker.
Oui,
non
oui, mais ça peut changer. Dennis Schroeder aussi a été très bon sur des séquences.
Ils ont des mecs du banc qui ont réussi à répondre dans les moments difficiles et ça c'est très fort.
Et à Denver, t'as Bruce Brown qui sort du banc, qui est un joueur que je très important pour Denver, capable de défendre sur pas mal de positions. Et après, c'est ric-rac. Il y a Jeff Green qui joue, mais qui est quand même up and down. Et t'as le rookie Christian Brown qui est là pour envoyer du bois. Je trouve que c'est un peu plus léger du côté de Denver que sur.
Je suis assez d'accord. Mais c'est vrai qu'ils ont l'avantage d'avoir un Gordon qui est capable de défendre sur toutes les positions, de mettre vraiment la misère à tout le monde. Il a défendu sur KD quand même. Et il a
dit petit pourcentage sur
lui. C'est ça.
On va faire un petit tour de table. Votre pronostic sur cette finale, Fred?
Alors, tu sais comment j'aime les Lakers, mais le fait qu'ils aient créé leur équipe comme ça au dernier moment, ça m'a énervé. Donc 4-2 pour Denver.
Ah ouais, ça te passe, c'est juste parce que ça t'a énervé.
Ouais, ça m'énerve.
C'est pas parce que tu penses que Denver
est
plus
fort. Non, moi je préfère les Lakers toujours, mais
Denver 4-2, Jojo.
4-1 Denver.
4-1 Denver, tu vois une grosse domination de Denver. Genre ils gagnent leurs 4 matchs, leurs 3 matchs à domicile, en prennent un à l'extérieur.
C'est ce que je souhaite. Hein. Moi, je sais que c'est les Lakers qui vont gagner, mais je souhaite qu'ils soient Denver.
Écoute, moi, je veux sur ce qui s'est passé depuis le début de saison, où aucune des deux équipes n'a perdu le moindre match à domicile. Moi, je pense qu'on va aller sur un 4-3 Denver dans le Colorado.
Tout le monde gagne à la maison.
Je pense, oui.
Ok. On pensait ça aussi de Monaco Tel Aviv, et puis ça s'est pas du tout passé.
Ça fait 3-2, match décisif.
Ouais, mais pas avec des victoires à l'extérieur. Sans parler du Partizan Real où il y a eu que des victoires à l'extérieur. Si j'ai pas dit. Le cinquième.
Oui, même une opposition particulière quand même, Partizan Real au final.
Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas bien compris. Tu souhaites une victoire des.
Moi, je souhaite une victoire des Nuggets.
Des Nuggets alors que t'es supporter des Lakers.
Oui, c'est un hater de LeBron.
Non, pas du tout.
Est-ce qu'on peut mettre ça sur Twitter? C'est un hater de LeBron. Il va passer une belle journée.
C'est juste que ça fait 10 ans que les Nuggets travaillent, qu'ils ont gardé le coach, etc. Et pour ça, j'ai envie de récompenser le travail durant des années. Mais moi, je suis un fan des Lakers.
Je te donne un conseil de vie entre toi et moi. À couper au montage de ce podcast.
Un conseil de vie.
Parfois, fais passer ta passion avant ta probité. T'as le droit d'aimer les Lakers, même s'ils ont fait de la merde pendant un moment, et même s'ils ont fait n'importe quoi. Soutiens l'équipe que t'aimes.
Mais j'aime cette équipe et je serais ravi. Le pire, c'est que je serais ravi.
Regarde-moi, je supporte le PSG jusqu'à la vie.
N'importe
quoi.
Non, mais tu sais quoi, Pierre, je suis persuadé que les Lakers sont passés à moi.
Ok. Ah, mais c'était ça que je voulais, un pronostic.
Écoute, moi, je pense que les Lakers vont passer.
T'es le seul à dire les Lakers.
T'es persuadé que les Lakers vont passer, mais t'as annoncé 4.
Oui, parce que je voudrais que ce soit comme ça, que la régularité du travail, qu'on ait gardé le coach, que Mike Malone soit toujours là.
C'est vrai. C'est incohérent.
Mais oui,
c'est-à-dire que tu es rationnel jusqu'au bout des doigts. Quoi.
Voilà,
c'est
ça.
Tu préfères le côté rationnel à la passion.
Et le match 1 va être intéressant parce que sur le premier tour et le deuxième tour, les Lakers ont toujours gagné le match 1 à l'extérieur. Memphis et les Warriors, ils ont toujours récupéré l'avantage du terrain des entrées de jeu.
Basket time spécial finale NBA, on passe à l'Est.
That was several feet short. Oh, Tatum on the drive. In this series, Adebayo, the spin and the flush. Brown rises up, three-pointer, that's good. Butler gets the angle and throws it down. Goes out to Smart, puts up a three, that's good. Bringing it down the floor, Lowry to Strauss. Tatum, Harris again, well defended, but Tatum just better. Working Barry to his three fouls, Butler gets it to drop.
Alors à l'Est, on a deux habitués de ces hauteurs-là, mais qui n'ont pas gagné ces dernières saisons, puisqu'on a eu Boston battu en finale par Golden State l'an dernier, Miami par les Lakers il y a 3 ans. Donc on a vraiment là l'expérience des deux côtés, mais pas la culture de la gagne. Alors évidemment, ce sont deux franchises qui savent gagner, hein. Mais dans l'histoire récente, ces équipes-là se sont cassées les dents à un moment. Et alors on a quand même les Celtics qui ont l'air un peu plus costauds, un peu plus armés. Et de l'autre côté, un Jimmy Butler et ses chiens de la casse, comme tu les appelles, Fred. Est-ce que Jimmy Butler est trop seul face aux Celtics? Ça va être l'angle de notre débat sur cette finale à l'Est. On a l'impression quand même que les Celtics arrivent en favoris sur cette série, non?
Pour moi, Boston est la meilleure équipe des quatre qui restent.
Carrément, mieux que Denver.
Mieux que Denver, parce qu'il y a ce vécu collectif d'une équipe qui était déjà en finale NBA l'année dernière, renforcée par Malcolm Brogdon. avec un, et ça va te faire rigoler, mais un Jason Tatum qui est capable de faire des matchs
non,
exceptionnels.
J'avais demandé son respect la semaine dernière, il a gagné le respect tout seul.
Sur le match 7, il l'a gagné. Il y a aucun
même
problème.
Sur le match 6, je crois.
Non, le 7 suffira. Ouais, ouais. Donc Boston, pour moi, est plus armé que Miami, est favori dans cette série-là, parce que Jimmy Butler porte cette équipe du 8 depuis le début.
Quel joueur quand même.
Quel joueur fantastique.
On peut s'arrêter deux minutes sur Jimmy, 33 ans, qui te met des comptes, des dunks et qui fait tout. Quoi.
Mais je sais pas si à un moment donné, il va peut-être pas tirer la langue un peu, Jimmy Butler, parce qu'il va devoir défendre soit sur Jason Tatum, soit sur Jaylen Brown. Ça veut dire qu'il va devoir s'envoyer des mecs capables de mettre 30, 35, 40, 45 points. Ça va lui demander un travail colossal. Et de l'autre côté, il va devoir assumer offensivement l'attaque de Miami. Donc ça me paraît compliqué pour le 8, surtout qu'ils vont affronter une équipe de Boston qui viennent de prendre un boost de confiance exceptionnel parce qu'ils étaient à deux doigts d'être éliminés. Ils étaient 3-2, ils allaient à Philly. Donc ils étaient dos au mur et ils s'en sortent pas miraculeusement parce qu'ils ont fait deux très bons matchs de basket et ils ont dominé. Donc ça me paraît compliqué. L'année dernière, je vais te dire qui pour défendre sur Jason Tatum. L'année dernière, ils avaient un garçon qui s'appelle PJ Tucker qui était destiné, disposé à cette tâche-là, et aujourd'hui ils ne l'ont plus, et je ne vois pas Caleb Martin, je ne vois pas Gabe Vincent capable de s'envoyer Jason Tatum sur une série, donc ils partent de loin Miami.
Ça manque de profondeur à côté de Butler, Fred ?
Alors évidemment ça manque de profondeur, après il leur manque quand même Oladipo et Tyler Hero qui manquent déjà offensivement, ça peut être hyper intéressant d'avoir ces joueurs, et malheureusement ils vont compter sans eux. Moi ce que je me dis c'est qu'on a l'impression qu'une équipe est à 200% de ce qu'ils peuvent faire.
Miami. Ouais, mais est-ce qu'on se trompe pas là-dessus ? Parce que finalement, ils le font régulièrement.
Oui, mais ils le font régulièrement. Mais on a vu quand même sur certains matchs, quand les pourcentages sont en baisse, c'est un petit peu plus compliqué pour eux d'enchaîner. C'est plus dur. Les matchs, ils sont obligés de baisser drastiquement les recours offensifs de l'équipe adverse. Sauf que Boston a des recours dans tous les sens. Mmh. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que dans tous les sens, ça peut marquer des points. On a parlé de Tatum et Brown, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a Brogdon, qui est pour moi un joueur incroyable. White, qui peut marquer des points. Smart qui a été bon aussi.
Irrégulier mais bon. Points,
donc voilà, moi je trouve qu'il y a tellement d'options offensives que c'est difficile même pour des chiens de la casse comme eux d'arrêter tout le monde en fait.
Jojo.
La question du débat, Pierre, c'était de savoir si Jimmy Butler il est trop essoufflé face aux Celtics. La réponse pour moi elle est oui, mais j'ai quand même deux espoirs pour Miami. Le premier c'est Eric Spoelstra. Tout simplement parce que coach, peut-être l'un des meilleurs coachs de ces dernières années, encore sous-estimé, mais grande expérience dans les grands rendez-vous face à Joe Mazzulla, ça va peut-être être un petit peu compliqué quand il va falloir s'adapter. Eric Spoelstra, il sait faire, et surtout les Celtics. Alors certes, leur qualité d'effectif, elle est plus à montrer, elle est fantastique, mais pour moi, ils sont très irréguliers en fait, tout le temps, que ce soit Tatum, Smart, Brown, ils sont capables de passer à côté et pendant 4-5 minutes, et à ce moment-là, Jimmy Butler, il lui en faut pas plus. Sur les playoffs, il tourne à pratiquement 30 points de moyenne avec 6 rebonds, 5 passes, il a eu des pointes à 42 points et 51 points de moyenne, et je me dis, à partir de là, si t'as des courants d'air pendant 4 minutes, pendant 5 minutes, et ben il suffit que là, Miami prenne feu, et ça peut vite devenir compliqué pour les Celtics.
Après, rafraîchissez-moi la mémoire, puisque tu parles des coachs, Eric Spoelstra, en début de carrière, il a été considéré comme tous les coachs de LeBron James, un peu comme le toutou de LeBron James.
Un petit peu, mais là, depuis, il s'est émancipé. Non, c'est fini. Alors, le seul bémol, c'est qu'il n'a jamais été élu coach de l'année.
Absolument.
Ça reste le gros bémol de sa carrière et peut-être une injustice.
Peut-être qu'il le sera un jour.
Une injustice, mais ça y est, Eric Spoelstra, il s'est émancipé de cette étiquette.
C'est un vrai bon
coach. Très fort.
C'est pas juste le fait qu'il soit dans les.
Ils alternent les défenses, ils proposent de la zone.
Dans le paysage depuis des années qui fait qu'on dit qu'il est bon.
Ils sont deux éléments majeurs, ils arrivent quand même en finale de la conférence Est.
Il fait beaucoup de choses. Il a tenté des choses, il a remis Kevin Love starter pour l'associer à Bam Adebayo et ça fait une énorme différence face à New York. Est-ce qu'il va encore faire la même chose, sachant que Joe Mazzulla, lui, a un petit peu tardé à jouer avec Horford et Robert Williams très grand et c'est ce qui a fait la différence face aux Sixers. Donc il y a un vrai combat de coach et Spoelstra a une tête d'avance puisque Joe Mazzulla a fait quelques erreurs contre Philly, oubliant de demander un temps mort sur une dernière possession lors de la série.
C'est encore et la pression sera sur Boston, bien clairement
sûr,
aussi.
Bien sûr,
série,
rappelons-nous que l'année dernière, c'était aussi la finale de conf et que ça se joue sur un tir à 3 points loupé de Jimmy Butler sur un match 7. Mm-hmm. Si Jimmy Bucket y met ce panier, c'est Miami qui est en finale NBA. Donc ils se sont joués les yeux dans les yeux.
Est-ce qu'il y a une grosse rivalité entre les deux ou pas ? Il y a quelque chose
Miami-Boston ? Non, plus Miami-New York. Plus Miami-New York.
C'est quand même la troisième fois en 4 ans qu'ils se rencontrent là, en finale de la conférence Est. Donc il y en a pas. Historiquement, il n'y a pas une grosse rivalité, mais là, ça commence à prendre un petit peu de l'ampleur.
Après, Miami va devoir mettre dedans 3 points et c'est la grosse carence de cette équipe qui a été un des cancres de la ligue en saison régulière sur l'adresse passes à 3 points. Duncan Robinson a pas vraiment filoché alors qu'il a eu un paquet de tirs ouverts contre New York. T'es obligé de mettre dedans contre cette équipe de Boston. L'interrogation, c'est comment va Jimmy Butler aussi. Il s'est fait quand même une cheville. Il a rejoué, certes, mais pas aussi bon qu'il était avant sa blessure à la cheville. Et quand on sait que Spoelstra va lui tirer sur la couenne pendant 38, 39, 40, 41, 42 minutes et qu'il va avoir un traitement de faveur, le problématique pour Miami, c'est si Jimmy Butler passe à côté d'un match, ils perdent. Mm-hmm. C'est simple. Mm-hmm. Pour moi,
donc
c'est simple.
Seul face aux
non, mais t'imagines surtout le relais qu'il peut y avoir sur lui en défense.
Eh oui, ils ont du monde.
Ils ont du monde. Ils ont quelques chiens de la casse aussi défensivement. Parce que quand tu vas dans la raquette, quand t'as William, c'est compliqué. Quand il est en forte, c'est compliqué. Mais c'est, surtout, tu vas taper Smart, tu vas taper White. Bon courage quand même.
Tour de table, qui est favori de la finale à l'Est, Fred?
Boston.
Boston, quelle 4-2. Configuration 4-2.
4-2.
Donc pas facile non plus.
Ah, non, rien n'est jamais facile contre Miami.
Jojo,
Boston 4-2.
Le même Boston 4-2, très bien. Siphon,
Boston 4-1.
4-1, plus d'écart pour toi.
Moi, je suis un mec des rimes, moi. 4-1.
Tu peux nous lâcher un bateau. Vas-y, fais-toi plaisir. On met un bed hip-hop. Siphon, il finit l'émission en rappant. Vas-y.
Non, je suis pas un freestyler.
Et la semaine prochaine,
moi.
On le fait, mais en anglais en plus.
En anglais. Ouais.
Bon, donc on est sur du Boston-Denver, mais attention parce que. Fred, tu nous vois, toi, la finale mythique Boston-Lakers. Hein.
Tout le monde en rêve, évidemment.
Alors, on va donc continuer sur ce spécial finale de la NBA avec notre partie historique tout de suite. Bird steals it. Johnson, layup Boston, 1 second left. Rodier gets it in. Here's James on the drive. Win. Tinsley, Reggie Miller. And it's blocked again. Trying to disrupt Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Alors, quelle est la plus belle finale de conférence de l'histoire? Finale de conférence, hein, donc on est aux portes du sacre, mais pas tout à fait. Et c'est vrai qu'on a tendance, bien sûr, dans l'histoire à retenir les finales. Stephen, quelle est la plus belle finale de conférence de l'histoire, selon toi?
Eh bien, écoute, je vais retourner... au début des années 2000, la première année 2000 d'ailleurs, Lakers-Portland, finale de la Conférence Ouest, les deux meilleurs bilans de la saison régulière, 67 victoires pour les Lakers, 59 pour les Trailblazers. À Portland, c'est Rashid Wallace, Scottie Pippen, Steve Smith, Sabonis, Damon Sotomayor contre le duo Shaq-Kobe, un jeune Kobe de 21 ans, Glenn Rice, Ron Harper et Derek Fisher. Avantage du terrain pour les joueurs de Phil Jackson. Alors, je vous passe les détails et les scores des premiers matchs pour vous dire qu'on se retrouve à 3-1 pour les Lakers en passe de rejoindre la finale NBA tranquillement. Mais Portland va aller gratter le match 5 à Los Angeles, puis gagner à domicile le match 6 et décrocher un Game 7. Et ce qui va se passer sur ce match 7 restera peut-être pour moi le plus gros traumatisme de l'histoire des Portland Trailblazers. Puisque pendant les trois premiers quart-temps, Portland domine le match, direction la finale NBA. Et là, entame du quatrième quart-temps, 15 points d'avance pour Portland, extinction des feux. Une chose paranormale dans le basket, comme ça peut arriver rarement, Portland va louper les 13 premiers tirs du quatrième quart-temps et permettre aux Lakers. Ce qui est beaucoup, hein, 13 attaques de suite où tu mets pas un panier, et ça va permettre aux Lakers de faire un comeback historique et de s'imposer 89-84. Et un quatrième carton emporté 31-13 par les Purple and Gold. Et ça sera le début de la domination californienne sur la NBA. Et pour clôturer ce comeback, il y a une action d'anthologie. C'est Kobe Bryant qui met un cross à Scottie Pippen et qui envoie le Shaq au alley-oop. Et en version originale, c'est très sympa, Pierrot. Portland a 3 timeouts left. The Lakers have 2. Bryant to Shaq!
Le Shaq qui décollait à l'époque.
Le Shaq qui décollait.
On l'a connu un peu plus ancré au sol.
Et c'est une action qui est un petit peu l'image de cette épopée Kobe-Shaq où on sait que ça ne s'est pas toujours très bien passé. Mais pour une fois, Kobe a fait une passe au Shaq, une passe décisive. Après, on voit le gros Shaq traverser le terrain comme ça, avec ses gros pas d'éléphant, être tout content. Et un énorme traumatisme pour les Trailblazers qui n'iront pas en finale.
Pour toi, c'est la plus belle finale de l'histoire.
C'était magnifique.
Jojo, à toi.
Alors, moi, je vais vous parler de Détroit-Indiana. Alors, quand on évoque ces deux équipes, forcément, on pense à ce 19 novembre 2004 où la plus grosse bagarre de l'histoire avait éclaté. Mais c'est aussi et surtout, Pierre, la finale de la Conférence Est de la saison 2004. D'un côté, les Pacers, premiers de la saison régulière à l'Est, et de l'autre, les Pistons, qui, eux, avaient terminé troisième. Alors, cette série, elle n'a pas été exceptionnelle du tout, offensivement parlant, loin de là. 6 matchs disputés, aucune des deux équipes qui a dépassé la barre des 85 points marqués dans les 6 matchs.
Malgré tout, tu nous vends ça comme la plus belle de l'histoire, donc il va falloir que tu sois bon.
Absolument.
En nous disant que c'était un carnage offensif.
Je t'expliquerai pourquoi.
Il va falloir que tu sois bon.
On termine avec des scores comme 67-72 ou encore 68-83, et c'est pour ça que j'ai choisi cette série.
Un parce bon
que...
Cholet Le Mans.
Voilà,
quoi.
Exactement. Voilà.
C'est Boja Malkovich, le coach des deux équipes.
Il y avait Boulazac, Boulogne-sur-Mer, comme vous voulez. En fait, il y avait tout dans cette série. Il y avait de la dureté, il y avait de l'intensité, il y avait des fautes. Mais j'ai regardé les images. Là, c'était des fautes de véritable.
L'arbitre. Et là, c'est l'arbitre qui parle.
Voilà. C'est la plus belle finale à arbitrer.
Voilà. Absolument. Voilà. Il n'y avait aucun panier facile. Encore aujourd'hui, on évoque cette finale de conférence comme celle ayant été la plus intense. Et après une victoire à domicile dans le Game 1, les Pacers ne veulent pas lâcher l'avantage du terrain. Ils sont menés 69-67 à 30 secondes de la fin. Indiana a donc l'occasion de revenir par l'intermédiaire de Reggie Miller. Ils réussissent à intercepter un ballon. Et il a l'égalisation au bout des doigts, mais c'était sans compter sur Tayshaun Prince qui réalise alors l'action de sa carrière.
On need a block. Four on the shot clock. I don't know if Billups knows that. He lost the handle. Tinsley, Reggie Miller. And it's blocked again. What a block. How did Prince get there?
Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette
Je pense que les commentateurs
action.
Étaient pour Indiana, non? J'ai l'impression. Hein.
C'était des commentateurs locaux. Donc un contre exceptionnel surnommé The Block et une rapidité qui a permis à Tayshaun Prince de combler les 4 mètres de retard du début de l'action. Le contre est parfait, il touche le ballon juste avant que celui-ci ne touche la planche. Et Reggie Miller va déclarer quelques années après « Je l'ai vu revenir dans mon rétroviseur, mais avec le recul, j'aurais dû dunker. Je pensais que j'avais quelques pas d'avance supplémentaires. » Détroit revient à un partout et on parle souvent du Game 4 ou du Game 5 dans des finales NBA. Ou des finales de conférence comme le tournant, et ben là le tournant, Ben Wallace le dit juste après, il dit le tournant ça a été là, on va s'imposer, on va aller en finale NBA, on va gagner, c'est ce qui s'est passé. Les Détroit tapent Indiana et en finale ils s'imposent contre les Lakers 4-1, Détroit champion NBA.
Et Reggie Miller quand il parle de rétroviseur, il en a deux grands à la place des oreilles. Je te dis gros qu'il l'a vu arriver.
Et tiens, une petite parenthèse, Tayshaun Prince, vous le placez où dans l'histoire de la NBA, quoi? Quel genre de...
Bon joueur.
Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire.
Ça s'arrête là.
C'est pas non plus un joueur fantastique.
Va pas nous survendre.
Non, mais c'est
fantastique joueur
pas...
dans une équipe, des longs segments, gaucher, une mécanique de tir un peu particulière, mais bon, fantastique dans le dispositif des Pistons. Mais après, on va pas non plus aller au-delà de ce qu'il est.
À toi, Fred.
Eh bien, on a écouté l'arbitre, on va écouter le big
Merci.
Man. Moi, j'ai choisi la finale de conf 95.
Ah.
95 qui oppose San Antonio, premier à l'ouest, à Houston. Sixième à l'Ouest. Alors juste pour se remémorer un petit peu cette saison 94-95, l'MVP de la saison, c'est David Robinson. Alors il y en avait un autre qui était en course. Évidemment, c'était Hakeem Olajuwon qui avait fini la saison à 28 points, 11 rebonds, 3,5 blocs. Donc il avait fait une bonne saison aussi. Je pense qu'il a pris de façon personnelle. Et c'est pour ça que j'ai aimé cette série, parce qu'on a Hakeem Olajuwon qui marche sur l'amiral, alors que l'amiral était le MVP en titre, je viens de le dire. Il fait des matchs incroyables. Sur le premier match, victoire d'un point de Houston, 94-93, avec Olajuwon qui se chauffe tranquillement. 27 points, 8 rebonds, 5 blocs. Bon, pas mal. Ensuite, deuxième victoire, 106-96, avec Olajuwon à 41 points, 16 rebonds. Ok ? Donc ça va, il est plutôt correct. Troisième match, là, c'est Robinson qui s'impose. 29 points, 9 rebonds, mais Olajuwon toujours à 43-11. Donc voilà. Et ça continue comme ça sur le Game 4, 20 points, 16 rebonds pour Robinson, 20 points, 14 rebonds pour Olajuwon. Match 5, 42 points, 9 rebonds, 8 passes décisives et 5 blocs pour Hakeem Olajuwon, à deux doigts du triple-double, une victoire. Et finalement, il s'imposera sur le match 6, 39 points, 17 rebonds, 5 blocs, très simplement, avec un Olajuwon à plus de 35 points de moyenne, 12,5 rebonds, 5 passes, 4,2 contre sur ses finales. Et de l'autre côté, un David Robinson avec 24 points, 11,3 rebonds et 2,2 blocs. Donc voilà, une bataille de big man. Et c'était pour ça que ça m'a plu.
À force de travailler avec vous, j'ai compris quelque chose. Fred, c'est pas de l'amour qui est là pour Hakeem Olajuwon, c'est de la dévotion. C'est-à-dire, il pourrait lui vouer un culte, il pourrait.
Ah ben,
comme les adorateurs de Maradona. C'est... Oui. C'est... Quand il parle de Olajuwon, j'ai des petits cœurs qui lui sortent des yeux comme ça.
Un exemple pour
quand vous aviez dévotion.
Oui, exactement. Dévotion, ouais. Non, mais on l'avait, t'inquiète pas, Steve. On salue nos confrères de Bean.
Bien sûr.
Fait deux fois dans le podcast, quand même. J'espère qu'ils téléchargent, qu'ils écoutent, quoi. Et qu'ils nous feront un petit coucou.
Je suis pas sûr, parce qu'ils ont créé un podcast.
Ils ont lancé leur podcast.
Le succès de Basket Time leur a inspiré la création d'un podcast.
Ça doit forcément être moins bien, par contre.
Écoute, je sais pas, je veux pas aller dans la guéguerre, mais bon, sur les chiffres, je pense qu'on est au-dessus quand même.
Alors les gars, je vais pas me prononcer, si vous voulez.
Juste, j'ai pas vérifié, mais de mémoire, je sais pas s'ils se sont rencontrés en finale ou en demi-finale de conférence, mais il me semble quand même qu'il y avait des Détroit-Chicago avant les premiers titres des Bulls. au moins une fois, mais totalement mythique, non ?
Mais il y a une fois où Détroit ne serre pas la main, se barre à la tête basse là et qu'on voit.
C'est une finale, ça, ou c'est une demi-finale ? Je sais plus. J'ai pas vérifié ça avant l'émission, mais il me semblait. Je pensais que vous l'un d'entre vous allait nous parler de ça, mais peu importe, c'est pas grave, c'était très bien. Bravo messieurs. Nous passons au quiz. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille. Tournerai en rond, et là, on va pas tourner en rond. Est-ce que vous êtes prêts ?
Coco Kukoc,
absolument. Alors là, vous mobilisez vos neurones.
Non, faites pas les paysans, t'es un mec de début de Chaumont, toi.
Je pense que deux filles contre les vampires.
Et voilà, exactement. T'es pas un esthète du visage, qu'est-ce que c'est ton problème hein,
esthète du visage.
Je vous la refais. Mon premier est l'esthéticienne débronzée.
C'est Christiane, l'esthéticienne, c'est Christiane Wood.
Allez, c'est un quiz spécial. Alors, finaliste
91, premier titre des Bulls, ils sweepent les Pistons 4-0 en finale de conférence.
En finale, ouais, ouais. C'est ça, énorme. Oui, mais c'est une revanche parce que l'année d'avant, je pense qu'ils se font fesser bien comme il faut.
Exactement.
Hein, ça. Alors, spécial Denver, Lakers, Boston et Miami. Ah, oui. Voilà, quatre belles franchises. Ça tournera que sur des joueurs, des records, des histoires, voilà, de ces comme quatre franchises-là.
Allons-y.
On va commencer par deviner un joueur qui a joué dans trois de ces quatre clubs-là. Ok, je vous dis pas le nom des franchises, je vous les donnerai plus tard.
Il y a longtemps ou récemment ?
Ah, pas très longtemps.
Joueur à la retraite ?
Joueur à la retraite, mais c'est pas très vieux. Donc un joueur qui a joué dans trois de ces quatre franchises, mais aussi à New Orleans, à Memphis, à Cleveland et aux Jiangsu Dragons.
André Blatt.
Dwight Howard.
Non. Très bon rebondeur, très bon contreur. Sa carrière a été interrompue par un contrôle antidopage positif alors qu'il jouait aux Hornets. Après sa suspension,
Jamal Magloire.
Non, t'as dit quoi toi ?
Non.
Sa suspension de 2 ans, excellent contreur. Hein. Il revient aux Nuggets et c'est là que sa carrière prend une autre dimension.
Chris Anderson.
Excellent, bravo. Il est cherché celui-là. Chris Anderson, qui donc sous les ordres de George Karl, va prendre une autre dimension, notamment grâce à sa défense. Champion NBA avec Miami.
The Birdman,
c'était le dernier indice, The Birdman. Ouais. Et il y avait la crête aussi comme indice.
Et les tatouages.
Parce que alors, le look, exceptionnel.
Exceptionnel.
Il y en a des lascars. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la dernière tenue de James Harden sur le match.
Avec son falzar quintupixel, tu l'as vu celui-là pas ?
Exceptionnel.
Oh, le falzar de l'espace.
Bon. Les mecs, quand même, ils sont forts. Hein. Bon, bref. Chris Anderson, le premier point va à Geoffrey. Alors, quel joueur détient le record de matchs joués, de points marqués et de passes décisives pour les Denver Nuggets.
Carmelo Anthony ?
Non.
Chauncey Billups ?
Non.
Oh. Allen Iverson ?
C'est beaucoup plus vieux que ça.
Oh.
C'est les années 80, c'est pas facile. C'est un joueur très connu, mais qui n'est pas resté le plus connu d'histoire de la NBA.
Kiki Van de Weg.
En revanche, non, c'est pas Kiki Van de Weg, mais c'est une vraie légende des Nuggets. 20e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, quand même. Hein.
Ah oui,
on parle de.
On passe à côté d'un mec, là.
Vous passez à côté d'un mec, et c'est pas facile, hein. C'est normal. Hein.
C'est pas facile ?
Non, c'est pas facile. Hein. C'est un ailier. Surnom.
Rolando Blackman.
Non, il a deux surnoms. Alex. Edge English.
Alex English.
Ouais. Alex English. Ça a du mal à sortir, Stéphane. Alex English, c'est bon.
Ah ouais.
Et ouais.
Il est bilingue.
Et ouais, il est bilingue, mais c'est la même langue. C'est dommage.
C'est le père de Damien.
English. Je ne l'ai pas là.
English.
Ah, Damien English. Bon, putain. Bon, on va enchaîner vite avec un vrai faux sur les Celtics. Ok.
Ouais.
Dans quel ordre on va faire ? On va démarrer par Stéphane. C'est chacun votre tour. Vrai ou faux, Stephen, le numéro 5 des Celtics a été retiré.
Le numéro 5 des Celtics a été retiré.
Ouais.
Numéro 5, c'était pas le numéro de Kevin Garnett, ça, à Boston. Donc je dirais non, faux.
Alors là, c'est dommage parce que c'était effectivement le numéro 5 de Garnett, mais il est retiré.
Oh.
Et oui, et c'est pour ça que je vous ai posé la question. Donc quand même, dans une franchise aussi mythique, on a retiré le numéro de Kevin Garnett. Vous trouvez pas ça chelou ?
Ouais, c'est très chelou.
C'est chelou, non ?
Oui, moi je déteste Kevin Garnett.
Il est champion.
Alors, mais là, je suis déçu pour toi parce que tu as trouvé le numéro du gars.
C'est pas grave, je le prends pas le point.
Tu le prends pas,
non,
c'est pas grave. À toi, Geoffrey. Don Nelson est champion en tant que joueur et entraîneur avec les Boston Celtics. Vrai ou faux ?
Eh ben, c'est vrai.
Eh ben c'est faux parce qu'il n'a jamais entraîné les Celtics.
Oui, je vous dis, Don Nelson, je l'ai vu
avec son petit air malicieux. Là,
trois fois entraîneur de l'année, champion multiples fois avec Boston en tant que joueur, mais donc il n'a jamais entraîné les Celtics, donc tu n'as pas le point.
Il faut tort.
Fred, Justin.
Quand on se trompe.
Justin Champagny a joué en Europe avant la fac.
Hein?
Justin Champagny.
Il a joué à Reims, lui, non?
Alors
Justin Champagny.
Ouais, Justin Champagny.
C'est qui, gros? Je connais même pas le joueur.
Mais si, vous connaissez quand même.
Pas du tout.
Justin Champagny.
Des Celtics.
Ouais. Tu l'es au bout du banc des Celtics. Mais
avec
moi,
son
je
crois nom...
que t'es Champagne, mais c'était Champagny.
Et avec son nom, j'étais sûr que.
Non.
Non, c'est faux, bravo. Excellent, frère.
Justin Champagny.
Tu n'es pas.
Si, mais il est rentré en jeu, hein, déjà.
Wow, d'accord.
Ensuite, à toi, Steve. Le logo des Boston Celtics a été conçu par le frère de Red Auerbach.
Le frère de Red Auerbach ?
Ouais.
Ouais, ça, je pense que c'est une belle anecdote. Tu pourrais pas m'inventer ça, donc je te dirais oui.
Bravo. Mais méfiez-vous quand même de mon vice. Robert Parrish, à toi, Geoffrey, a joué avec Michael Jordan.
C'est qu'il est pauvre.
Oui, il est pas riche. Robert Parrish, légende aussi des Celtics, a joué avec Michael Jordan.
Il me semble que oui.
Mais toi, tu lui donnes la réponse, toi, Fred.
Et Frédéric Mace, ouais.
Pourquoi, il a dit quoi? Il a dit oui.
Il a dit oui, comme ça, alors il était complètement paumé.
Très ouvertement, donc alors, merci Fred.
Vous devez le savoir, donc c'est vrai, parce qu'il a été même champion.
Il était champion, oui.
Avec Jordan en 97.
Mais il s'est embrouillé un peu, en plus, je crois, quand dès qu'il est arrivé, il a dit, moi, j'ai joué avec
Tess. C'est dommage, c'était une question qui était pour toi, Fred, mais la question pour toi, c'est la suivante. Brad Stevens, le manager des Boston Celtics, a travaillé dans l'industrie des préservatifs avant d'être entraîneur de basket.
Avec Kita.
C'est vrai ou c'est faux?
Je vois pas comment t'aurais pu inventer ce genre de truc. Donc je veux dire... Faux.
C'est faux, bravo. Bravo, il est pas tombé dans le piège, tu vois mon
bravo.
Vice. C'est justement de faire deux anecdotes que je peux pas inventer, mais la deuxième elle est fausse justement. Donc ça fait 2 points pour tout le monde. On enchaîne, on revient à Denver. Mark Isla. Et je sais pas si vous savez qui c'est Mark Isla.
Hein?
C'est un journaliste du Denver Post.
Ah. Mark Isla.
Mark Kisla.
Kisla.
Là, là.
Journaliste du Denver Post qui écrit sur les Nuggets. A écrit un jour, les Nuggets ont drafté un désastre international.
C'est vrai, c'est vrai.
De qui
c'est
parlait-il vrai,
c'est Jokic.
Non mais c'est pas la vraie.
Ah pardon.
C'est pas Jokic.
Jamal Murray.
Non.
Porter.
Nikos Tsiakasvili.
Non.
Mais c'est il y a longtemps ou...
Non. Mais pas il y a longtemps. Si je vous donne l'année...
Brown.
Carmelo.
Si je vous donne l'année, vous allez trouver tout de suite. Vous voulez l'année? C'était un premier tour.
Evan Fournier.
Evan Fournier. Evan Fournier a été accueilli comme ça par le Denver Post. Ça fait mal quand même.
Je crois qu'on était sur un vrai fou.
Avant qu'il joue le moindre match.
Oui.
Donc bon.
Bon, après, Charles Barkley a bien dit que Luka Doncic, s'il avait gagné l'Euroleague, c'est que la Ligue devait pas être très forte. Il y a un gamin de 18 ans et c'est
Stephen meilleur. Stephen prend l'avantage. 3 points, 2 points pour Jojo, 2 points pour Fred. Et là, attention, je vais encore vous surprendre. Le Miami Heat, rien à voir avec le basket, dans le film Heat.
Oh.
Quel acteur?
Al Pacino.
Tient le
Robert
troisième
De Niro.
Rôle. Oh.
Troisième rôle.
Val Kilmer, excellent Fredo.
Dès que ça touche pas au basket, il
est. Ah oui, moi je suis excellent.
Il est solide, il est cultivé Fredo.
Ouais, c'est vrai.
Bravo.
J'ai entendu qu'il meurt à la fin.
Bon, t'auras gagné sur le concours de blagues, t'auras gagné, il n'y a pas de souci, mais sur le quiz.
Franchement, c'est là, c'est serré.
Les Celtics.
Oui, qu'est-ce qu'ils ont?
Quel est le seul joueur des Celtics à avoir inscrit au moins 30 points dans 7 matchs consécutifs?
Jason Tatum.
Non.
Larry Bird.
7 matchs consécutifs à plus de 30
Paul
points.
Paul Pierce,
bravo.
Bien sûr.
Encore une fois dans cette franchise à l'histoire inégalée, inégalable, eh bien, il y a des trucs curieux. C'est Paul Pierce qui a la plus longue série de matchs à plus de 30 points. Les Lakers.
Oui.
Karim ou Kobe, chacun votre tour. C'est très facile. Mais il faut juste garder un peu de lucidité.
Non.
Non, ça ne peut pas être les deux.
Quel prénom commence par un K, c'était les deux.
Le plus grand nombre de... Alors, je fais juste un point sur le score, c'est égalité parfaite, 3 points pour tout le monde.
Excellent.
Stephen,
oui.
Le plus grand nombre de matchs disputés avec les Lakers, Kobe ou Karim?
Le plus grand nombre de matchs disputés avec les Lakers, Karim ou Kobe? Je pense que Kobe a fait 20 saisons dans une seule franchise. Il me semble que Karim a joué avant aux Bucks, donc je vais dire Kobe Bryant.
C'est le bon raisonnement, c'est la bonne réponse, bravo.
Bon,
Geoffrey, le plus grand nombre de matchs joués en NBA, Kobe ou Karim?
Eh bien, Karim.
Absolument, et c'était évident. Et enfin, Fred, le nombre de points marqués avec les Lakers, Kobe ou Karim?
Bah logiquement, Kobe.
C'est logiquement, Kobe, absolument. Oui, mais Karim, quand même,
oui, mais
deuxième meilleur marqueur de l'histoire, ça pouvait éventuellement... Donc là, c'est magnifique. Vous êtes tous à 4 points, il me reste une seule question.
Oh là là, je me redresse. Mal de match.
Il me reste une seule question, non, mais c'est une question multipoint qui est compliquée. On est sur des finales. Alors là, là on va parler de la finale mythique que je préfère, hein, que celle dont je vous bassine à longueur d'émission. La finale Miami Spurs de 2006. Ok. De 2013, pardon. On est au match 6. Donc ce fameux match qui était dans la main, de, dans la poche des Spurs.
Dis pas, le mec a mis le panier à 3 points. Hein,
voilà. Ouais, le mec qui a mis le panier à 3 points, exactement. Je vais vous demander. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
7 quoi ?
Joueurs sorti du banc lors de cette finale.
C'est vraiment un cochon.
Oh ouais. Du côté du 8 ?
Sur les deux équipes. Il y a des joueurs très connus, donc c'est pas si difficile que ça, c'est pas simple, mais on n'est pas sur des anonymes de la NBA du tout. Qui va démarrer ? Qui va démarrer ? On va faire démarrer Geoffrey.
Je vais tenter Thiago Splitter.
Excellent, exceptionnel, il me l'a sorti. Le pivot.
Moi j'en ai deux. Ah, c'est tout ce que j'ai.
C'est à Fred. Fred.
Je ne me rappelle plus son nom, c'est pas possible, je connais que lui.
Tu connais que lui.
Le gaucher argentin.
Oui.
Mais Ginobili.
Eh ben il était titulaire, donc c'est mort pour toi, Fred.
Je vais tenter.
Ouais, tente, vas-y.
J'ose espérer parce que je le revois sur le banc, sur le tir de Ray Allen dans le corner, je le revois sur le banc avec cette petite afro là à plat. Je vais tenter Norris Cole.
Alors le problème, c'est qu'il était probablement sur le banc, mais qu'il n'a pas joué la moindre minute. Donc Geoffrey, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as gagné ce quiz.
Ah, merci.
Est-ce que vous voulez les autres noms ?
Il y avait Chris Andersen.
Il y avait Chris Andersen, absolument, il était là, le Birdman.
Il n'y avait pas Joël Anthony ?
Il n'y avait pas Joël Anthony, mais il y avait Bobo.
Il y avait Babac,
il y avait
Boris
Dio, il y avait Matt Bonner, il y avait Gary Neal, il y avait Shane Battier, et il y avait surtout, messieurs, dames... Le mec qui a mis le panier à 3 points, Ray Allen, il sort du banc.
Mais non. Arrête ces conneries.
Donc il y a quand même des mecs à trouver. C'est Geoffrey qui a gagné le quiz. Bravo Geoffrey, félicitations.
Merci.
À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.